Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Gaëlle Delbenas.
Bonjour.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Avec grand plaisir, merci pour l'invitation.
C'est Claire du coup qu'on remercie. Racontez-moi Gaëlle, comment et pourquoi vous êtes devenue avocate?
C'était un rêve d'enfant. Depuis toute petite, je ne sais pas pourquoi, je veux être avocate. Voilà, c'est
sans explication.
Je voulais être avocate. Je devais avoir 8 ans et je voulais être avocate internationale.
Moi aussi, je voulais ça.
Ah bon?
Mais je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire.
Moi non plus, mais je trouvais que ça faisait super bien.
Ça faisait bien. On est d'accord.
Et depuis, j'ai pas lâché. Voilà.
Est-ce que vous êtes avocate internationale?
Pas du tout. J'ai pas lâché l'affaire. Un jour, peut-être quand je serai vieille et décrépite, peut-être que je ferai un peu d'humanitaire, mais non, j'ai pas du tout lâché l'affaire. Ça m'intéresse toujours, ouais.
Comment est-ce que vous avez déroulé votre parcours?
Bien, je fais assez classique. J'ai eu un bon parcours, bon élève. J'ai fait des études scientifiques, rien à voir. Enfin, scientifique jusqu'au bac, quoi. Et ensuite, j'ai hésité avec des prépas. Et puis, à la dernière minute, j'y suis pas allée et j'ai choisi la fac de droit parce que je savais que c'était vraiment ça que je voulais faire.
Ouais.
Voilà, fac de droit classique, voilà.
Et en fac de droit, il y a eu des orientations qui se sont dessinées?
Oui, alors mon papa est notaire, donc je devais faire droit des affaires.
Pourtant, donc... les notaires, c'est moins du... Enfin, ça dépend des types de notaires, mais... C'est plus du droit privé, quoi.
Oui, voilà. Alors, c'était droit privé, m'orienter à faire. Hein, et j'ai vite compris que c'était vraiment pas super intéressant. Et j'ai bifurqué par hasard parce que j'avais pas lâché mon idée de faire du droit international. Donc, je faisais des jobs d'été, en fait, bénévoles dans des associations. Et je candidatais un peu dans toutes les associations que je trouvais. J'avais déjà travaillé à Londres, j'avais fait un stage à Londres. Et là, c'est la CIMAD qui m'a répondu. Vous connaissez la CIMAD, j'imagine?
Oui, moi voilà. Je connais la CIMAD. Mais c'est vrai que nos auditeurs connaissent peut-être pas la CIMAD.
Peut-être pas, ça vaut le coup de la présenter.
Ben voilà, présentons la CIMAD.
Donc c'est une association œcuménique qui défend le droit des étrangers sur la France et donne notamment des conseils juridiques aux étrangers qui arrivent en France, gratuitement. Donc on m'a contactée et là, c'est le droit des étrangers, c'est passionnant. Parce que c'est un mélange de tous les droits, donc c'est très compliqué. Et là, j'ai un peu plongé, enfin même voir beaucoup dans le droit public. Et à partir de là, voilà, j'ai connu des avocats en droit public, et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est super intéressant.
Donc, vous avez connu des avocats en droit public, pas que en droit des étrangers?
Il y a beaucoup d'avocats qui font du droit public, qui font du droit des étrangers, parce qu'il y a une grosse partie du contentieux qui se passe devant le juge administratif. Il y a une grosse partie du contentieux qui se passe devant le juge pénal aussi. Mais il y a une grosse partie qui se passe devant le juge administratif et du coup il y a pas mal de publicistes, ce qu'on appelle les publicistes, cette caste un peu bizarre, hein, qui voilà. Donc du coup j'ai pu faire un stage en cabinet de droit public et voir que c'est hyper intéressant.
Comment ça se passe cette première collab dans ce cabinet?
Très bien, parce que j'arrive dans une chouette équipe où il y a plein de jeunes collabs qui démarrent aussi, ouais. Des dossiers passionnants et tout de suite je suis mis dans l'arène. Avec voilà des enjeux très très importants à l'échelle de la commune, de la région, du département, ouais, beaucoup de personnes publiques en clients. Et surtout j'ai eu ce qu'on appelait à l'époque une patronne qui était vraiment super. Et il y avait aussi un ancien bâtonnier dans mon cabinet qui était vraiment extraordinaire. Et c'est toujours pareil, c'est des gens qui vous marquent. Voilà, donc il y avait toute cette équipe qui était très sympa. J'ai même gardé encore des amis. Et ça, c'était super. Et pendant 5 ans, j'ai une formation béton.
Ouais.
Béton.
Donc
vraiment.
Beaucoup de droit de l'urbanisme.
Beaucoup de droit de l'urbanisme, qui est effectivement le gros contentieux du droit public. Mais après, de tout. Donc, j'ai fait du droit pénal public. Donc, droit pénal de l'urbanisme, droit pénal de l'environnement, toutes les matières du droit public, donc ça peut être la domanialité publique, les marchés publics, la fonction publique, des choses comme ça.
Ouais.
Mais je me suis vraiment beaucoup amusée, ouais.
Ouais. Et ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 5 ans? Qu'est-ce qui fait que vous êtes partie?
Alors, je suis partie parce que j'avais quand même en tête que c'est une profession libérale et que libéral, faut être un peu libre. Donc, libre, c'est où s'installer, où s'associer. C'est très difficile en droit public de développer sa clientèle personnelle. C'est un peu compliqué, notamment quand on veut travailler pour des communes ou des collectivités. Donc, en général, on s'associe à un cabinet. Donc, je suis allée voir ma patronne. Je lui ai posé la question. Est-ce que vous avez l'intention de m'intégrer dans le cabinet ou pas? Elle m'a dit non. J'ai pas l'intention de vous intégrer dans le cabinet. J'étais pas un bon élément.
Elle vous a expliqué ou pas?
Non, elle m'a pas expliqué. Je me demande pourquoi. Non, parce que peut-être que j'étais pas aussi malléable que tout le monde.
Ok.
Voilà, je pense que j'avais...
Il y avait une petite lueur de folie.
Je faisais pas. J'étais au diapason, quoi. Voilà, j'étais pas. Je faisais un peu. J'étais un peu indépendante, quoi. Je menais mes dossiers par rapport à d'autres collaborateurs. Donc je pense que j'étais pas dans les rails de l'associé type, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ben pourtant, on aurait aussi pu vous voir justement comme une personne à qui c'est facile de donner beaucoup d'autonomie dans la gestion des dossiers.
Moi, c'est comme ça que je le vois. Aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois, ouais, avec les gens avec qui je bosse. Mais bon, à l'époque, c'était pas ça.
Ouais. Donc, et vous l'avez pris comment, ce nom catégorique?
Très bien. Très bien, ouais. Parce que je m'entendais très bien avec elle et j'ai beaucoup d'estime pour elle. Donc, c'était très clair et net, très sain. Je dis OK, et à partir de moi, j'ai cherché ailleurs. Et donc là, j'ai trouvé un cabinet où dans lequel je suis aujourd'hui, qui est devenu mon cabinet d'ailleurs, et où très clairement mon associé m'a dit, enfin mon ex-futur associé m'a dit écoute, moi si tu intègres, je t'associerai. Voilà, si ça se passe bien, je t'associerai.
Et c'était aussi un cabinet de droit public?
Exactement, ouais.
Avec déjà une clientèle de collectivités,
ouais,
de
qui était déjà montée, ouais, depuis une quinzaine d'années, ouais. Beaucoup plus petit. Donc rien à voir sur la structure, mais le même type de clientèle. Ouais, ouais, ouais.
Ok.
Avec des communes plus petites.
Ok. Et donc vous intégrez ce cabinet avec en ligne de mire cette discussion de si ça se passe bien, tu deviendras associé.
Exactement. Ouais. Donc du coup, je me suis investie à fond. Voilà, j'ai tout fait pour développer la clientèle, ramener de nouveaux dossiers, enfin montrer que j'étais super motivée, etc. Et au bout de 2-3 ans, j'étais associée.
Il y avait combien de personnes dans ce cabinet?
À l'époque, je crois qu'ils étaient 2 ou 3, si je me souviens bien, ouais. 2 ou 3 avocats, ouais.
Donc un associé et des collaborateurs?
Oui, c'est ça.
Et les autres collaborateurs par rapport à la question de l'association?
Quand je suis arrivée, je le connaissais déjà, parce que le barreau de Montpellier, quand même, ça reste un petit barreau.
Ouais. Et donc, il est publiciste du barreau de Montpellier.
Alors, en plus, voilà, c'est encore plus restreint. Donc, on se connaît bien. C'est le mercato entre les collaborateurs qui tournent. J'ai toujours, c'est le mercato, quoi. Mais, je suis arrivée, j'ai dit clairement, j'ai posé les choses, je les connaissais bien. J'ai dit, moi, j'ai l'intention, je sais pas comment tu te positionnes, mais moi, je suis venue pour m'associer, quoi. Donc, c'était très clair. A priori, il n'y a pas eu de personne.
Eux, ils n'avaient pas forcément le même projet?
Non, parce que de ce que j'ai compris, pas forcément, non, à l'époque où je suis arrivée, donc
ouais. Et vous dites, du coup, à partir de ce moment-là, je me suis investie à fond et j'ai tout fait pour développer, ramener des dossiers et tout.
Ouais.
Donc vous avez, enfin, est-ce que c'est des choses que vous aviez un petit peu commencé à faire dans votre précédent cabinet, ou est-ce que, on va dire, vous attendiez qu'on vous dise il y a des opportunités pour vous mettre dans la peau de l'aspect développement? Est-ce que cette posture, entre guillemets, de développement, vous l'aviez commencé avant, ou est-ce que vous l'avez vraiment commencé quand vous avez intégré ce cabinet et que vous avez eu, entre guillemets, un objectif assez clair si ça marche, vous deviendrez associé, quoi?
Alors, personnellement, je sais pas si mon ancienne patronne dirait ça de moi, mais je pense que je m'investissais à fond dans les dossiers, quoi, entre guillemets. Donc, ouais, j'allais voir les clients, je discutais, je développais des relations avec la clientèle, ouais, je les avais en direct. Alors, j'allais pas forcément chercher de nouveaux clients, parce que j'avais pas de gros réseaux, des choses comme ça. Mais en tout cas, je faisais tout pour avec les clients qui étaient dans le cabinet, voilà,
pour les fidéliser.
Les fidéliser, exactement. Enfin, je m'investissais à fond, quoi.
Et qu'est-ce qui a changé dans le nouveau cabinet, dans votre posture?
C'est que j'étais plus autonome.
Plus autonome.
Comme vous disiez. On m'a fait confiance dans mon autonomie, ma liberté, mon indépendance. Ouais. Donc oui, Donc là, c'était un peu, vas-y Gaëlle, montre-nous ce que tu sais faire.
Ouais.
Donc du coup, c'était cool, parce que j'aime bien ça, et donc bah, je l'ai fait, et apparemment ça a plu. Voilà.
Et qu'est-ce que vous avez fait justement ?
En fait, c'est, j'ai un peu déroulé le, comme dirait mon associé, enfin mon ancien associé, c'est plus mon associé, mais la pelote de laine. C'est-à-dire que on a, quand vous avez un fonds de clientèle, si vous prenez soin de vos clients, voilà, c'est pas des enfants, mais faut un peu, faut être là, faut les, si vous allez voir, si vous être, vous êtes disponible, ce qui est un peu rare, enfin moi je trouve que c'est pas, on s'est pas assez développé peut-être chez les avocats, la proximité, tout ça, bon, ce qui est un peu à la mode aujourd'hui, quoi. Bah, après les clients ils reviennent, ils vous donnent de nouveaux dossiers, ils vous confient à d'autres clients, enfin voilà, ça se déroule assez naturellement, quoi, en fait. Donc on a pu, je crois qu'on a même doublé le chiffre d'affaires en quelques années, quoi.
Oui.
Il suffit de se bouger un peu les fesses pour, enfin à mon avis, hein, après chacun son point de vue, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Mmh. Donc voilà, donc j'allais systématiquement en rendez-vous, je me déplaçais dans les coins perdus du sud de la France, j'allais voir les élus, bah, tout ce que je fais toujours d'ailleurs, hein, je les prends au téléphone, ils ont le portable, je leur réponds tout de suite quand ils ont des questions, voilà. Et on est là, quoi. On les est, donc on est présent en fait.
Oui.
Et ça s'est fait comme ça.
Eh mais c'est une vraie question ça hein, parce que c'est vrai que c'est à la fois l'équilibre à trouver entre un peu protéger son temps parce qu'il faut gérer les dossiers et tout ça et puis ben en même temps pouvoir avoir cette relation de proximité, penser à
tout à fait ouais
à aller déjeuner avec les gens, à aller voir, à prendre des nouvelles et tout. Moi je trouve que c'est pas facile.
Alors c'est pas facile du tout même encore après 20 ans de bar, j'ai encore du mal. Donc ça je pense que ça sera toujours l'éternel problème. Mais au final, tout se fait. Enfin, moi, je le vois maintenant avec 20 ans d'expérience, je vois que voilà, tout se fait quand même. Enfin, on arrive à démêler les choses. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est ça aussi dans le métier d'avocat. C'est la relation humaine. Enfin, c'est ça qui est sympa, quoi. Sortir du cabinet, plaider, aller rencontrer les clients, les juges, les experts. C'est ça qui est sympa, quoi. Ça donne la substance au dossier, parce que si on reste à conclure toute la journée... Moi, c'est pas trop mon kiff, quoi. Enfin, je travaille quand même, bien sûr, mais beaucoup, mais j'adore ça, quoi. Aller sortir du cabinet.
Cette partie relationnelle.
Ah ouais, c'est fondamental pour moi, ouais.
Et donc, vous dites, vous avez été associé au bout de 2-3 ans.
Oui, ouais, ouais. Tout à fait.
Donc, au début, vous étiez vraiment associé, parce que j'entends que la personne est partie maintenant.
Oui. Elle est toujours là. Elle est collaborateur.
Ah non, mais c'est hyper intéressant. Donc voilà, bah, qu'est-ce qui s'est passé du coup?
Quand je me suis associée.
Ouais.
J'ai pris une partie des parts.
Ouais.
Je me suis associée à 20%. Voilà.
Ouais.
Et
en augmentation de capital?
Non, j'ai acheté.
C'était de la cession.
Voilà, j'ai acheté parce que j'avais pas de clientèle.
Et donc on vous a cédé un portefeuille de clients,
c'est
de dossiers.
Voilà. Alors qu'on valorise.
Ouais.
Enfin, c'est comme ça se passe à Montpellier, qu'on valorise une certaine somme. Et donc du coup, j'ai détenu 20% des parts sociales du capital de la société qu'on avait créée. Mm. Donc à ce titre-là, ben je percevais des revenus, etc. Et puis on a travaillé comme ça à peu près une dizaine d'années, ouais, 10 ans. Voilà, c'est ça.
Comment ça s'est passé de devenir l'associé de quelqu'un qui avant était votre patron? Je vous pose la question parce que c'est quelque chose, je connais un certain nombre de collaborateurs qui ont eu peur de l'association et voire s'en sont détournés dans le cabinet où ils étaient collaborateurs. En se disant, j'arriverai jamais à avoir à ce que je sois plus le petit, quoi.
Ouais, je comprends, ouais.
Et à revoir ma posture et à être considéré autrement. Enfin, tout ce truc de posture, de regard, de positionnement. Vous, comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que vous l'avez vécu?
Alors, ça s'est super bien fait parce que je pense que, enfin, c'est pareil, j'adore mon associé. Je suis fan de lui et c'est quand même quelqu'un de bien, quoi. Donc je pense qu'il m'a laissé la place, en fait. Voilà. Donc ça s'est fait normalement.
Il devait avoir envie, en fait.
Oui, exactement. Il en avait besoin et envie, ouais, carrément. Et de toute façon, on s'est toujours super bien entendu. Ça a vraiment matché tout de suite. Et du coup, ça s'est fait super naturellement. Il m'a prise. On faisait le tour des clients en voiture et tout. Enfin, il m'a présenté à tout le monde. Et petit à petit, voilà, j'ai pris ma place pleine entière au cabinet. Donc, ça s'est fait vraiment naturellement. Même si on n'avait pas le même nombre de parts sociales, on est à égalité, voilà, au niveau des décisions, des choses comme ça. Enfin, vraiment, vraiment, ouais, non, je m'en souviendrai aussi toute ma vie. Il me disait au début, c'est très important, faut que tu signes le chèque des collaborateurs. Pour leur montrer que c'est toi qui es le patron. Alors, du coup, il me donnait l'échiquier. Il fallait que je signe. Voilà, parce qu'il trouvait que c'était très symbolique de distribuer pour, parce que c'était plus une question de se positionner par rapport aux membres du cabinet que par rapport à mon ancien patron, en fait.
Ouais.
Voilà. Et bon, très vite, on est passé au virement, donc la question ne se posait plus. Mais ouais, c'était... non, ça, avec mon associé, c'était super bien passé. Ouais, non, j'ai pas eu ce problème. Parce qu'à mon avis, il m'a laissé la place aussi. Il faut laisser la place, en fait, je pense.
Et vous, en termes de vision de ce que vous vouliez faire du cabinet, tout ça, pareil, vous étiez aligné?
Ouais, complètement. Complètement aligné, ouais. Vraiment, ça a coulé, ouais, ça c'est nickel.
Et par rapport aux autres collaborateurs?
Par rapport aux autres collaborateurs, est-ce qu'il y a eu des départs? Bon, je pense qu'il y a quand même eu 2-3 remises à... fallait un petit peu dire, bon, là, maintenant, Gaël est associé, quoi. Il y a eu un ou deux recadrages. Je sais plus si c'est avec un collab ou avec une secrétaire. Parce que forcément, bon... c'est normal, hein. Il faut que les gens s'adaptent aussi. C'est pas toujours évident. Mais après, ça s'est très bien passé. Voilà. Non, ça s'est très bien passé, ouais.
Et vous dites, s'ensuit 10 ans d'association heureuse.
Voilà. Ouais. On a développé tous les deux et,
Vous avez dit tout à l'heure, le chiffre d'affaires a doublé en quelques années.
Ouais. Avec mon investissement, oui, je crois à peu près, hein. Pas doublé exactement, mais à peu près, ouais, un 7, un 8, on avait été, ouais. Ouais, ça avait été une bonne opération, quoi.
Doubler le chiffre d'affaires, c'est pas rien, quoi.
Ouais.
Comment est-ce que vous vous êtes structuré pour absorber ça?
Ben, on a pris des collaborateurs, et puis très vite, on s'est dit, il faut qu'on associe deux personnes. On voulait développer. Et là, ça a été plus compliqué. Ouais. Là, c'est pas évident. C'est compliqué, parce que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a plein de, peut-être d'obstacles au fait que des collaborateurs ne veulent pas s'associer chez leur patron ou des choses comme ça. Ouais, on a eu du mal on n'a pas trouvé d'ailleurs d'associé, ouais. Ouais.
Ouais. Donc vous avez eu ce besoin.
Oui.
De vous dire, en fait, on est en pleine croissance, on a le chiffre d'affaires, donc on a besoin d'avoir quelqu'un d'expérimenté qui vienne avec ce rôle-là et tout. Et les autres collaborateurs en place, n'en avaient pas particulièrement l'envie.
Ouais.
Et vous avez pas réussi à recruter par l'extérieur?
Non, non plus.
Quelqu'un d'équivalent?
Non. Alors on a peut-être pas fait ce qu'il fallait, hein. Enfin, je veux dire, je nous remets d'abord en cause, hein, bien
oui,
sûr,
oui,
mais,
oui, oui.
Non, ça a pas été possible. Ouais. Ni par l'extérieur, ni à l'intérieur. On n'a pas su convaincre, quelqu'un d'autre de venir avec nous.
Ouais. Vous avez eu des retours des raisons de... Enfin, est-ce que c'est des personnes qui ont fini par partir? Comment?
Oui, ce sont des personnes qui ont fini par partir, et qui on s'entend très bien d'ailleurs. Enfin, hein, pas de... Les raisons, peut-être, qui sont peut-être sans doute légitimes, qui sont liées à la patrimonialisation de la clientèle. C'est-à-dire qu'on achète une clientèle, mais qui garantit que cette clientèle va rester?
Va rester.
Et ça, je pense que cette prise de risque, aujourd'hui, vu le contexte économique, social, c'est compliqué de la prendre. Je la lis en grande partie à ça.
Ouais.
Je pense, hein. Je pense que même si on a des clients institutionnels, ça peut faire peur aussi d'acheter, quoi, parce que ça veut dire un prêt, s'endetter pour 7 ans. C'est-à-dire pendant 7 ans, on a une vie, on serre la ceinture quand même. Enfin, c'est pas, on roule pas sur l'or. Enfin, c'est tout ça, c'est compliqué. Et puis le stress, la responsabilité, du chiffre d'affaires, du client, etc. Moi, je pense que je lis à ça. Alors peut-être après le cabinet, les intéressait pas. Hein, c'est peut-être aussi fort probable. Hein, on n'est pas non plus le meilleur du cabinet, hein, loin de là. Mais ouais, je pense que c'est lié à ça.
Non, mais c'est pareil. C'est des questions que je trouve intéressantes parce que. Il y a beaucoup le réflexe de partir pour s'installer. Je me demande si les personnes sont conscientes de... Tout dépend bien sûr des configurations, etc. Hein,
ouais.
Mais du temps que ça prend en fait de structurer un cabinet, une clientèle, une offre, de se mettre dans cette posture et tout. Et finalement, le chèque qu'on sort potentiellement, bien évidemment, encore une fois, tout dépend de la clientèle, du chiffre d'affaires, de plein de choses, mais des garanties de cession, c'est un raccourci, quoi.
Bah oui, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu. voilà, on n'a plus qu'à développer quelque chose qui est déjà en place. Donc c'est sûr, on paie un ticket d'entrée, mais moi, enfin, ça m'a jamais personnellement posé un vrai problème. Et sur mon investissement, j'ai vu que ça marchait, quoi.
Ouais.
Après, j'ai des amis aussi qui ont monté leur cabinet, effectivement, en unipersonnel, qui sont très contents. Ils sont tout seuls, ça marche bien pour eux. Ils ont leur clientèle à eux, ils ont le compte à rendre à personne. C'est un autre fonctionnement. Voilà, c'est autre chose. Mais en droit public, parce que c'est quand même très intéressant. Non, mais en droit public, pour monter sa clientèle d'institutionnel, effectivement, c'est à mon avis un petit peu long, un petit peu compliqué, quoi, de réseauter à mort et même encore. Donc, ouais, il n'y a pas trop le choix. Enfin, effectivement, je pense, quoi.
Non, mais c'est des questions ouvertes. Hein. Il n'y a pas de réponse. Mais ouais, non, c'est intéressant de les soulever quand même.
Non, non. Alors, moi, c'est des questions qui me passionnent parce que je les vis au jour le jour. Mais je pense qu'il n'y a pas de réponse claire et nette. Déjà, c'est en fonction de ce que veulent les avocats. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent pour eux? Comment ils voient leur vie professionnelle, leur vie privée? Et puis voilà, qu'est-ce qu'ils veulent investir, etc. Ouais, c'est passionnant.
Vous, votre acquisition de clientèle, vous avez eu de la perte?
Non. Ah non, pas du tout.
Tous les clients que vous avez, entre guillemets, achetés, ils sont restés et ils se sont développés.
Ah oui, oui, oui.
Ouais.
Oui, tout à fait. Ah ouais, c'est très stable. Et... parce qu'on fait le job, hein.
Bien sûr, voilà. Que c'est pas magique, ouais.
Ouais, ouais, mais ouais. C'est très stable.
Je sais plus, si je crois que c'est des clients d'Iris et Demis qui me disaient aussi, qu'ils sont passés dans leur développement par une acquisition d'une partie d'une clientèle, qu'ils ont eu 100% de rétention. Donc voilà, je vais surtout pas en faire une.
Ça peut arriver, oui, voilà. J'ai déjà vu ça aussi. Ouais. Malheureusement, j'ai déjà vu, ouais. Mm. Et ça, c'est le. Mais alors.
Non, 100% de rétention. Ah, donc, comme vous, tout le monde est gardé et tout le monde est resté.
Excusez-moi.
Mais
ouais.
C'est sûr que peut aussi y avoir. Et ça, j'en avais aussi parlé avec Delphine Galin, qui est à Marseille, et qui, à un moment, a acquis une clientèle à Paris parce qu'elle prenait un poste au CNB, ou c'était la présidence du CNB, je sais plus. Non, c'était pas la présidence du CNB, c'était un mandat au CNB ou à la CE. Bref, un gros mandat dans l'association ou au CNB qui faisait qu'elle avait beaucoup de déplacements à Paris. Et elle s'était dit, je vais pas pouvoir beaucoup m'investir dans du développement propre pur. Et donc, je vais acheter une clientèle pour faire cette transition pendant quelques années. Et elle dit, ça a fait le job, c'est-à-dire que j'ai eu un peu de perte. Mais la clientèle acquise, j'ai quand même eu assez de rétention pour que ça me maintienne mon chiffre, enfin que au global ça me maintienne mon chiffre d'affaires là où il devait être pendant cette période du mandat où elle avait pas énormément de temps à investir dans du développement de l'acquisition propre.
C'est idiot, ouais.
Donc voilà, il y a tous les cas de figure, mais et vous avez connaissance de cas de figure d'achat de clientèle où pour le coup il y a eu que
ouais,
le départ.
Des gros clients type assureur qui partent, ouais.
Ouais.
Là,
dur.
C'est dur.
Ouais.
Ça arrive.
Ouais.
Ça arrive, ouais.
Et donc, bref, et mon autre question par rapport à ça, c'était, vous dites que vous n'avez pas réussi à recruter cet associé. Je regarde votre montre. Vous dites que vous n'avez pas réussi à associer à trouver un autre associé pour compléter. Comment est-ce que vous êtes organisé, du coup, compte tenu de cette contrainte?
Alors, j'ai fait le choix, sur les conseils avisés d'un ami à moi, de lui racheter tout lui racheter. Donc, je suis devenue l'associée unique du cabinet aujourd'hui. C'est assez récent, là. Donc, c'est un pari sur l'avenir. Et je me suis dit, voilà, il y a un moment, on patinait un peu tous les deux. C'est pas qu'il est pas loin de la retraite, mais bon, lui, il a un peu fini son activité. Son épouse travaillait avec nous, elle a pris sa retraite. Donc, il y avait un moment, ça patinait, en fait, et c'était pas bon pour la société. Je dis c'est pas bon, on envoie un mauvais signal.
Qu'est-ce que vous voulez dire par patiner?
On se développait plus, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires stagnait en fait. Il était bon, mais il n'était pas en développement comme on avait pu connaître. L'effet de levier en fait, quand on associe quelqu'un, il y a souvent un effet de levier.
Ouais.
Et donc on avait franchi un palier qu'on n'arrivait plus à franchir en fait. Voilà. Et donc mon associé, voilà, joyeux anniversaire. Il a 64 ans aujourd'hui.
Ah, joyeux anniversaire.
Et c'est normal. Lui, il a commencé à travailler jeune. Il avait
envie de céder la main.
Voilà, c'est plus son rôle de développer. C'est plus son rôle. Donc voilà, c'était pas bon pour la société. Et je sentais. Donc je me suis dit, il faut faire un truc. Donc je me suis dit, moi, je fais un pari sur l'avenir. Je reprends tout Et là, je vais pouvoir je proposerai quelque chose d'autre à des gens qui seront intéressés, quoi. Mais voilà, ça sera
donc une reconfiguration, on va dire, voilà. du cabinet.
Voilà, c'est ça, une reconfiguration du cabinet. Et donc mon associé, mon collaborateur aujourd'hui.
Et ça se passe comment ça?
Super.
Super.
Ah ouais, génial. Ça c'est vraiment une transmission intelligente. Ah ouais, très très bien. Ah ouais, franchement ouais ouais. Bah là depuis un an, il est très bien. Il est très content.
Du coup, il fait lire ses dossiers.
Voilà, il fait exactement ce qu'il veut à mi-temps. Donc il travaille tous les matins. Il vient très tôt au cabinet d'ailleurs, mais non, il bosse, il fait son taf, il repart à midi, il est super content, il fait ses travaux dans la maison l'après-midi. Non, c'est franchement, ça se passe super bien.
Meilleure vie.
Ouais, ouais. Mais il me fait marrer parce qu'il m'avait toujours dit ça. Il m'avait toujours dit, mais moi, mon rêve, c'est d'arriver au cabinet, de lire le journal, de prendre mon café, de faire ce que j'aime. Il va souvent en expertise, il va voir les clients. Enfin, il ne fait que ce qu'il aime. Il n'a pas les contraintes, il n'a pas le stress. Il m'avait toujours dit, moi, je me vois comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement.
Et donc, vous, cette restructuration, vous avez tout acheté, c'est intervenu dans une phase de, bon, bah là, on stagne, il faut qu'on repense les choses.
Ouais.
Et du coup, comment est-ce que vous avez repensé les choses? Alors, je comprends que c'est récent, donc peut-être que c'est en cours de...
Exactement, c'est en cours.
Comment, work in progress, hein, mais comment est-ce que vous avez envisagé les choses après cette acquisition qui a été, ben voilà, aussi une prise de risque importante pour vous.
Ouais, tout à fait. Je me suis dit, moi je prends un peu les rênes. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans l'ancienne configuration. Donc là, maintenant, c'est moi qui distribue les cartes. Peut-être que j'ai effectivement une autre façon de voir aussi ma boîte. Et du coup, peut-être que ça va mieux matcher, mieux se faire avec ou les avocats qui sont présents, ou les avocats qui sont pourquoi pas à l'extérieur, parce que moi je suis ouverte à tout le monde, il y a aucun problème. Au revoir, parce que comme on disait tout à l'heure, le monde du travail évolue énormément, et nous les avocats, on est un peu bloqués quand même sur l'ancien monde. Et je trouve que c'est super dommage. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs à révolutionner, à faire. Donc voilà, je suis assez ouverte un peu à tout, quoi. Donc je m'ouvre des perspectives assez vastes.
Qu'est-ce que vous avez envie de révolutionner?
Le rapport au travail, le rapport entre avec les collaborateurs, le rapport entre associés, l'argent. Enfin, je trouve qu'il y a trop de différences souvent entre les collaborateurs et les associés. Enfin, il y a des gaps qui sont trop énormes dans une. C'est pas possible. Ça justifie pas.
Sujet de redistribution. Ouais.
Les intéressements, des choses comme ça. La vie au cabinet, la bienveillance, quoi. Je sais, on galvaude le mot, mais c'est vachement intéressant quand même chez les avocats. On en manque, hein. C'est un peu violent comme profession. Voilà, faire un truc un peu cool.
Vous dites même, est-ce que vous avez aussi un peu modifié, on va dire, je sais pas moi, le positionnement du cabinet en termes d'offres, en termes de clients, des choses comme ça?
Oui, j'ai augmenté les honoraires. Parce qu'on n'était pas ça, j'ai augmenté les honoraires.
Et ça s'est passé comment?
Les clients vont partir.
Ouais, mais non, mais ça s'est passé comment d'augmenter les honoraires?
Bah, c'était évident parce qu'en fait, on avait peut-être une grille qu'on n'avait pas revue depuis longtemps et du coup qui calait pas, quoi.
Parce que ce que me disent pas mal d'avocats, de collectivités et d'institutionnels, personnes publiques, c'est que ça fonctionne aussi beaucoup par appel d'offres et que
oui.
Donc en fait, contrairement à ce qu'on pense.
Oui.
C'est pas forcément facile d'avoir la main sur les honoraires parce qu'on est il y a
tout
beaucoup de contraintes par rapport et de mise en concurrence avec mine de rien le prix qui est un réel élément de différenciation
Oui, bien sûr.
Et donc
malgré
ce contexte, vous avez réussi à augmenter les honoraires.
Là où je peux.
Là où vous avez.
Là où je peux. Mais il est évident qu'avec les assureurs, hein, le barème des assureurs, alors là, c'est un gros sujet aussi. Et effectivement la base des marchés publics. Oui, là, la marge de manœuvre, elle est très réduite.
Donc, vos marges de manœuvre, elles sont plus sur certaines opérations hors marché public?
Oui, voilà, en dehors des marchés ou sur des privés, des choses comme ça, ouais.
Vous avez beaucoup de clientèle privée?
Non, assez peu. Pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas le gros de la clientèle, ouais. Ouais.
Et vous faites encore beaucoup de droit de l'urbanisme ou ça s'est beaucoup diversifié en termes de fonds? Enfin, sur quoi est-ce que...
Non, sur les matières, c'est toujours les mêmes. Hein. Toujours pareil. Tout ce qui concerne le droit, tout ce qui concerne le droit public. Toutes les activités des collectivités publiques, en fait. Tout ce que peut faire un maire dans sa journée, quoi. On va dire, pour résumer. Et moi, ce que j'adore, c'est le pénal. J'essaie un peu de le développer. C'est tout ce qui est les délits liés à la probité publique. Ça, j'adore. Bon, c'est très intéressant. C'est le droit pénal un peu spécial.
Ouais.
Et puis en plus, il y a une actualité qui, voilà, on entend partout des élus qui sont condamnés parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté un peu politico-judiciaire de plus laisser passer des délits. Mais ça, c'est quelque chose que j'essaie de développer parce que il y a vraiment un truc à faire quand on est avocat et c'est passionnant de défendre des élus.
Et je sais pas pourquoi, moi, je vous avais tagué droit de l'environnement.
Ouais, exactement, ouais. Ouais, j'en fais. Ouais. C'est super. Alors ça, c'est super intéressant. Ça, c'est hyper intéressant. Quand on le mêle avec le droit de l'urbanisme, c'est un sujet d'actualité. Là, je vais faire une formation à Marseille là-dessus. C'est le vrai sujet d'actualité. Ah, ben, c'est passionnant, ouais. Ah ouais.
Donc, c'est quel type de problématique ?
La grosse problématique, par exemple, qui est ultra d'actualité, c'est les arbres en ville. On a aujourd'hui beaucoup de contentieux sur la place des arbres en ville. Parce qu'à l'époque, les mentalités ont beaucoup changé là-dessus. Il y a 20 ans, on s'en foutait des platanes en ville, quoi. Aujourd'hui, si vous touchez un arbre en ville... Mais les riverains se mobilisent et il y a tout un mouvement général pour protéger cet arbre. C'est vraiment un truc de dingue. Et du coup, j'ai beaucoup de contentieux autour de ça. Donc quand il y a des projets d'aménagement par exemple qui prévoient d'enlever des arbres et de les remplacer, mobilisation générale des riverains, grosse opposition, c'est très très tendu avec les élus et il y a un dialogue qui est quasiment impossible. Et donc là, ça mêle beaucoup de problématiques du droit de l'environnement et du droit de l'urbanisme. Donc ouais, c'est assez passionnant. C'est assez passionnant parce qu'en plus, ça pose des questions hyper importantes pour la société, pour le développement des villes. Enfin, c'est vraiment génial. La participation du public à ce genre de procédure aussi. Alors moi, j'adore... Chez nous, à Montpellier, on a un grand botaniste qui s'appelle... Francis Allais, qui est très très connu, quand on s'intéresse à ça, aux arbres notamment, et qui a écrit justement un livre sur les élus, plaidoyer, ça s'appelle Plaidoyer de l'arbre pour les élus, je crois que ça s'appelle un peu le bouquin. Et donc il explique aux élus comment préserver les arbres en ville. Bon, ça par exemple aujourd'hui c'est une problématique qui est très très importante et qui mêle droit de l'environnement et droit de l'urbanisme. J'ai beaucoup de dossiers là-dessus.
Je crois que c'est l'été dernier quand il y a eu une vague de canicule où j'avais vu passer plusieurs petits reportages sur la manière dont on peut rafraîchir les villes par l'urbanisme et qui inclut beaucoup la végétalisation des villes.
C'est ça, ouais.
Et donc la question des arbres, mais aussi en fait plein de dispositifs qui ont été créés pour créer des sortes de jardins suspendus,
oui.
Tout à fait, ouais. D'ombrelles végétalisées parce qu'il faut mélanger. C'est pas juste de créer de l'ombre, c'est aussi
tout à fait.
Créer de l'ombre avec du vert et tout machin. Mmh. Et c'est vrai que je me disais, mais c'est fou parce que ça a l'air d'être plein de petits dispositifs pas compliqués d'un point de vue installation. Et voilà, j'étais la première à me dire comment ça se fait que c'est pas des trucs qu'on voit beaucoup plus, quoi. Enfin, à Paris, j'ai pas l'impression que la végétalisation avance à grands pas.
Exactement.
Voilà.
Alors, ouais. À mon avis, il y a deux problèmes. Il y a un problème de culture. Je pense que les élus ne sont pas acculturés à la question. Enfin, ils sont complètement hors sol pour le coup. Alors que, c'est fini. Enfin, à mon avis, il faut plus voir la ville comme ça. Et il y a une deuxième question, ça qui est fondamentale, c'est l'argent et la promotion immobilière. Parce que moi, je sais qu'il y a des promoteurs qui font tout pour des peu scrupuleux pour enlever des arbres. Et bien sûr, vu le prix du foncier, pour qu'on sorte dessus, quoi. Donc, ouais.
Oui.
Mais chez les juges administratifs, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte. Par contre, il y a un nouveau prisme sur leur approche du dossier par rapport au droit de l'environnement. Là, j'ai eu une affaire à la Cour administrative d'appel de Marseille. C'était marrant parce que il y avait un gros projet d'urbanisme et je défendais la ville et c'est vrai que les plans étaient pas très clairs sur les arbres. Alors, on voyait bien que parce que c'était C'est un parc, un ancien parc avec une jolie villa. Ils voulaient faire des logements et des collectifs. Et donc, on voyait bien qu'ils avaient construit au bord des arbres. À vos souhaits.
Merci.
Au bord des arbres pour faire manière. Manière 2, on les a préservés. Mais en fait, quand on regardait bien les plans, on voyait la ramure des arbres qui dépassait, enfin, qui recouvrait les bâtiments. Et donc, là, le juge administratif a dit, ouais, mais attendez, s'il y a la ramure des arbres qui recouvrent les bâtiments, ça veut dire que les racines, elles sont sous les bâtiments. Donc là, vous êtes en train de construire sur les racines. Vous voyez? Cette espèce de...
Ce qui est déjà hyper poussé comme...
C'est vachement poussé. J'étais étonnée. J'étais, mon Dieu, mais ils se transforment en botaniste, naturaliste, ouais. les juges. Mais je trouve ça super bien parce que du coup, voilà, c'est une nouvelle. À l'époque, enfin, il y a 10 ans, on aurait dit, ah ouais, c'est bon, les plans montrent qu'ils construisent pas, ils enlèvent pas des arbres. Là, voilà. Il y a une vraie approche, donc ça, c'est en train de changer.
OK.
Voilà. Mais c'est, ça, c'est passionnant. OK. Ça, c'est des débats passionnants, ça.
Mais du coup, ce que je comprends de tout ça, c'est que, donc, vous avez une activité droit public des affaires au service des collectivités qui mêle urbanisme qui pose souvent des questions environnementales et donc du coup ça vous invite à jongler avec la réglementation environnementale, tout ce qui est on va dire question de probité, j'imagine
les conflits d'intérêts,
fonction publique, contrat public, ouais.
Oui, tout à fait.
Ça.
marché public. En fait on a une espèce de cabinet généraliste en droit public.
Ouais.
Donc on fait de tout. Enfin, on va faire même du bail commercial pour les communes.
Oui, oui. J'ai l'impression que c'est un truc qui se développe à fond, ça. La frontière public-privé. Les contrats privés pour les collectivités.
Alors
machin.
Ça, c'est passionnant. Alors notre histoire passionnante. Mais moi, quand j'ai fait ma fac, donc je viens d'une filière privée.
Ouais.
Et donc je me suis mis droit public sur le tard. Mais j'ai voulu conserver longtemps les deux. Et à la fac, à Toulouse, on m'a expliqué que c'était impossible. Il fallait faire ou du privé ou du public. Et souvent, je me suis retrouvée avec cette dichotomie. Et quand je suis arrivée à Montpellier, je sais pourquoi ma patronne, elle m'a prise. C'est parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de publiciste qui sache rédiger une assignation au judiciaire. Et je dis, moi, je sais faire, parce que voilà, j'ai une formation dans privatiste. Et c'est pour ça qu'elle m'a prise. Parce que je faisais les deux, moi, en fait. J'étais en... Ouais. Et je pense que quand on est un conseil, qu'on a un petit cabinet, parce qu'après, les grands cabinets, ils ont des départements, quoi. Mais un petit cabinet, on est obligé de tout faire, un peu.
Oui et non, parce que... Alors, c'est un petit cabinet comme le vôtre, mais je pense, par exemple, au cabinet Dray Avocat, pour lequel on a travaillé dans le cadre d'Iris et Thémis, Sarah Margaroli, dans son activité, elle m'a dit, voilà, nous, il y a un gros truc qui se développe, là, c'est tout ce qui est, effectivement, les beaux commerciaux, cession de bail, cession de foncier, mais en fait, c'est du droit privé qui est connecté à des questions de public et donc
tout à fait.
Voilà et pareil Rivière Avocat Associé où on a accompagné Mélissa Rivière dans son recrutement et pareil elle travaille énormément sur ces questions de foncier, de droit immobilier public avec beaucoup de passerelles entre le privé et le public et donc en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois que je travaille avec un publiciste ces derniers temps je me retrouve à avoir quelqu'un qui cherche un peu le mouton à cinq pattes qui puisse aussi enfin qui soit publiciste mais qui puisse aussi potentiellement s'intéresser aux questions de droit privé ou vice versa quoi.
Ouais, c'est enfin au moins avoir des bases. Parce qu'après, je suis pas du droit commercial, je suis pas du droit social, suis pas spécialiste, mais des bases, ouais.
Et aujourd'hui, du coup, il y a combien de collaborateurs dans votre cabinet?
Aujourd'hui, on est 6 avocats, donc il y a 5 collaborateurs.
6 avocats, ouais, 5 collaborateurs, ok. Et de quoi est-ce que vous avez envie pour demain?
Bah moi j'ai envie de faire rentrer des jeunes dans la société et puis qu'on puisse chacun développer faire ce qu'on aime et que ça fasse un peu vivre la boîte et qu'on se développe un petit peu quoi. Moi je me vois bien une dizaine d'avocats et que du coup ça crée un microcosme sympa, on évolue et que voilà chacun évolue de son côté, enfin et qu'on s'enrichisse les uns les autres. Je vois bien comme ça. C'est un peu vague, mais c'est comme ça que je le vois.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'effet de levier quand on recrute un associé et qui aussi est là quand on recrute un collaborateur. Mais vous avez l'impression qu'en étant, enfin aujourd'hui seul et d'avoir repris cette structuration, enfin. Vous avez l'impression que c'est un cadre plus propice pour aller chercher ces effets de levier
en termes
de croissance.
Ouais, oui, je pense. Oui, parce qu'il y a une histoire de génération aussi et de d'énergie. Et moi, je suis je suis encore jeune, j'ai 44 ans. Donc j'ai tout à jouer et je suis super motivée. Donc je pense que ça va amener un dynamisme. Oui.
Vous avez dit voilà, c'est quand même une prise de risque de faire ces achats de, enfin, oui, d'acheter un cabinet, d'acheter, oui, une. Et comment vous vivez ce risque?
Comment je vis ce risque? Alors je pense que j'ai toujours été un peu inconsciente. Je pense que j'ai une part de désinvolture, en fait, on va dire, qui fait que j'ai toujours un peu foncé, quoi. J'ai toujours aimé ça. Je m'en souviens quand j'étais collab sur mon premier cabinet en droit public. Avant de quitter pour le cabinet où je suis aujourd'hui, j'avais dit à tous les collabs, on n'a qu'à monter un cabinet franchement, à nous quatre, à nous cinq, on s'en sortirait parce qu'on a chacun des compétences, ta 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 ta. Enfin, j'étais, personne m'a suivi, bien sûr. Mais j'ai toujours été un peu comme ça, quoi. Donc je le vis. Forcément, je speed. Hein. Il y a des fois, c'est un peu. Mais au final, ça se passe, quoi. Et je le vis plutôt bien, je pense. Et même voir bien, parce que ce que je me dis, c'est que je suis alignée, quoi. Je suis bien dans mes bottes, en fait. C'est mon curseur, quoi. Voilà, je suis bien avec ce que je fais, même si c'est casse-bonbon, c'est pas évident, va falloir un peu la jouer serrée, etc. C'est un challenge, mais en fait, je me sens bien dans ça. Donc c'est là où je me dis, j'ai bien fait de le faire.
Vous êtes fait accompagner par, je sais pas, des personnes sur des aspects justement financiers, de structuration financière du cabinet, ou sur les questions de financement de cet achat, oui, ou des choses comme ça?
Oui, oui. Ouais, ouais. On a un expert comptable et un excellent confrère qui était ancien membre du CNB d'ailleurs, qui conseille beaucoup de cabinets sur Montpellier pour la restructuration, des choses comme ça. Ouais.
Ouais. Ouais. Et que ça vous a aidé, j'imagine, à, oui, vous projeter dans tout,
oui,
ça.
Oui, oui, ça m'a aidé parce que même si je comprends pas tout ce qu'il me raconte parfois. Je dois l'avouer.
C'est une bonne leçon, hein, d'être client, ah ouais, à son tour. Ah ouais.
Je comprends vraiment rien. Je leur fais à fond confiance, du coup. Et non, mais c'est vachement intéressant de toujours échanger avec eux parce qu'ils ont d'autres points de vue, enfin d'autres façons de voir les choses, etc. Et c'est toujours très enrichissant, même si parfois je prends des décisions qu'ils me conseillent, mais je prends pas. Enfin, je suis pas leur conseil, mais c'est en connaissance de cause, et du coup non, c'est toujours super intéressant. Et en tout cas, ils sont très très sympas, très en renfort, ça c'est cool, quoi. Donc ils m'ont suivi, ils sont très très sympas, c'est bien, j'en ai eu besoin, sinon j'aurais, oui, ça c'était fondamental. Ouais.
Quel est votre principe déontologique préféré?
Alors, c'est une bonne question. J'adore la délicatesse, j'aime beaucoup.
Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot?
Je trouve que c'est ça recouvre. Bon, il y a tous les autres qui sont fondamentaux, mais je trouve que cela, ça recoupe beaucoup de. Ça dit beaucoup de choses sur le respect des gens, des personnes, sur la façon de les aborder. C'est un concept que j'aime beaucoup, même dans la vie. Je trouve que le mettre dans un serment, c'est super joli, quoi. Enfin, voilà, c'est la façon d'aborder les gens avec respect. Et les épouser tels qu'ils sont, enfin voilà, j'aime beaucoup. C'est pas évident à faire, hein, mais je trouve que c'est fondamental dans nos vies, quoi.
Quelle est votre dernière joie?
Ma dernière, oula, certainement avec mes enfants. certainement avec mes enfants, mais là tout de suite je me rappelle pas. Alors c'est plutôt un fou rire. Avec ma fille ce week-end, parce qu'on est allé, au Japon. Je suis partie au Japon avec mes enfants cette année, et donc ils adorent les ramen. Et on est allé, les grands vont au scout, donc ils sont allés. Il y avait une messe scout, et donc ma fille, elle a 5 ans, elle me dit, mais maman, mais les ramen, mais c'est comme à l'église. Je dis, mais quoi, c'est comme à l'église? Elle me dit, oui, ils disent tout le temps ramen, ramen. Voilà, ça m'a fait.
Elle a quel âge, votre fille?
C'est une petite joie, quoi. Elle a 4 ans et demi.
Ok.
Ça me fait rire. Oui, ramène, ramène.
C'est vrai. Et donc, vous avez une petite et deux grands, c'est ça?
Ouais, ouais, ouais.
Et dernière question, qu'est-ce que vous portez sous votre robe?
Ça dépend, peut-être rien. Je vous dirai pas. Je porte des vêtements.
C'est une question. Alors vraiment, c'est une question très libre.
Alors vraiment, je suis en habit assez cool en général. Ouais, ça peut être des baskets aussi, des jeans. Ouais.
Merci beaucoup pour cet échange.
Bah, c'est merci de votre invitation.
Avec plaisir.
Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine !